Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits, le jour. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Thomas Jost, Hassan Mbechour. Les nuits, le jour. Notre visite dominicale dans les archives de l'INA. Bonjour à tous. Aujourd'hui, un avant-goût du programme d'archives que nous consacrerons samedi prochain au récit de fin du monde. Tout de suite, un astéroïde peut-il provoquer la fin du monde? Un numéro de Science Publique proposé par Michel Alberganti qui réunissait les astrophysiciens Jean-Pierre Luminet et Patrick Michel, ainsi que l'astronome David Bancelin, pour un débat passionnant diffusé en 2012 sur France Culture.
Bonjour et bienvenue à tous dans Science Publique. Un astéroïde peut-il provoquer la fin du monde? La fin du monde est-elle pour le 21 décembre 2012, c'est-à-dire dans moins de deux mois, selon certaines interprétations du calendrier Maya, ou bien, plus sérieusement, pour le dimanche de Pâques 2036, ce qui nous laisserait un peu plus de temps? Cette seconde hypothèse apparaît nettement plus sérieuse que la première. En effet, parmi les véritables phénomènes pouvant provoquer la fin du monde, ou du moins la disparition de l'homme sur Terre, la collision avec un astéroïde arrive en bonne place. Or, le 13 avril 2036, l'astéroïde Apophis doit croiser l'orbite de la Terre avec un risque de collision qui a été évalué au moment de sa découverte à 1 sur 37. Ce qui peut paraître une probabilité faible était en réalité considéré comme très inquiétante par les astronomes. Heureusement, par chance, cette probabilité a été fortement réduite depuis. Et d'autant une chance d'autant plus importante que le choc, si cette collision avait lieu, le choc serait terrifiant. Il équivaudrait à pas moins de 58 000 bombes atomiques, de quoi détruire un pays de la taille de la France avec des répercussions planétaires. On se souvient du sort des dinosaures. On oublie facilement que la Terre est bombardée en permanence par des météorites et autres objets célestes. Dans son livre intitulé « Astéroïdes, la Terre en danger », l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet rappelle que pas moins de 1000 tonnes de cette matière provenant de l'espace arrivent sur Terre chaque jour sous des formes allant de la poussière à la pierre de 100 kg. Dans le système solaire, les astronomes estiment à quelque 3 millions le nombre de géocroiseurs, ces astéroïdes évoluant à proximité de la Terre. Et 90% d'entre eux resteraient non détectés aujourd'hui. Cela signifie qu'une mauvaise surprise est toujours possible et que, comme le craignaient judicieusement les Gaulois, le ciel peut vraiment nous tomber sur la tête. L'un des astéroïdes menaçants a d'ailleurs été nommé Toutatis. D'où viennent les astéroïdes qui circulent dans le système solaire? Peut-on évaluer précisément les risques de collision entre un gros astéroïde et la Terre? Quelles seraient les conséquences d'un tel choc en fonction de la taille de l'astéroïde? Comment se fait-il qu'autant de géocroiseurs restent indétectés aujourd'hui? Si une collision s'avérait très probable, existerait-il des moyens pour détourner l'astéroïde de sa trajectoire? Pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris et directeur de recherche au CNRS, et auteur, entre autres ouvrages, du livre dont j'ai parlé à l'instant, intitulé « Astéroïdes, la Terre en danger », publié aux éditions Le Cherche Midi. Patrick Michel est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, directeur de recherche au CNRS et responsable du groupe de planétologie du laboratoire Lagrange à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Et Daniel Bancelin est chercheur en astronomie à l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides, l'IMCCE, installé au sein de l'Observatoire de Paris. Je vous rappelle que vous pouvez bien entendu nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Jean-Pierre Luminet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien connu pour vos travaux et vos ouvrages sur l'astrophysique et les mystères du cosmos, sans parler de vos talents de poète. Et voilà que vous vous intéressez de près aux astéroïdes et à la menace qu'ils font peser sur Terre. Alors votre livre, qui est publié, actualisé, une actualisation publiée en octobre sur ce sujet, pourquoi cet intérêt pour un sujet finalement beaucoup plus terre-à-terre que des grands problèmes cosmologiques ?
Oui, c'est vrai qu'avec les météorites et les astéroïdes, on est loin des trous noirs et des univers chiffonnés et du Big Bang. C'est un sujet tout de même donc de proximité, mais qui présente un immense intérêt à divers égards, notamment un intérêt scientifique extraordinaire parce qu'il est extrêmement pluridisciplinaire. C'est évidemment de la planétologie, puisque là on est dans le système solaire, on apprend plein de choses sur les processus de formation des planètes, l'histoire du système solaire, etc. Mais quand on étudie certains astéroïdes, certaines météorites ou certaines comètes, il y a aussi de la biologie qui peut intervenir lorsque l'on s'interroge sur l'origine possible du vivant. Ça fait intervenir la paléontologie lorsqu'on s'intéresse aux extinctions massives d'espèces, la chimie, la géologie, tout un ensemble de disciplines qui se mettent ensemble pour essayer de comprendre ces millions de corps de nature diverse.
Et aussi un phénomène fascinant puisqu'il a déjà séduit beaucoup de romanciers ou de metteurs en scène de films, puisque plusieurs déjà, enfin une dizaine de films peut-être traitent de ce sujet. On y reviendra bien entendu. Patrick Michel, bonjour.
Bonjour.
Donc vous nous entendez depuis Radio France Azur.
Comme si vous étiez là.
Comme si vous étiez là, parfait. Donc vous travaillez à l'Observatoire justement de la Côte d'Azur. Vous êtes le spécialiste, ou un des grands spécialistes français des processus de collision avec les astéroïdes. Et vous êtes membre des groupes de travail qui existent sur ces astéroïdes qui nous menacent à l'Union Astronomique Internationale et à l'ONU. Cela signifie que le problème de suivi des astéroïdes est une préoccupation mondiale.
Absolument. Il l'est devenu depuis pas très longtemps, puisqu'en fait, la première collision qu'on a vue en réel dans le système solaire, c'était la collision d'une comète avec Jupiter en 1994. Et c'est à partir de là qu'il y a eu une prise de conscience internationale que ce risque existait. On avait les cratères sur la Lune, qui d'ailleurs, grâce aux missions Apollo, on a pu vérifier que ces cratères étaient bien des cratères d'impact et pas des volcans. Et on avait déjà estimé, en comptant les cratères et en les datant, que le taux d'impact dans le système solaire interne, c'est-à-dire sur Terre, Mars, Mercure, enfin toutes les planètes telluriques, eh bien, a été plus ou moins constant en moyenne durant les 4 derniers milliards d'années. Mais disons, c'est des indices a posteriori. Et là, on avait en 94 une collision en temps réel. Et depuis, il y a eu des résolutions qui ont été votées à la Commission européenne. La NASA a aussi demandé que soit atteint la découverte de la plupart des objets plus grands que 1 km de diamètre qui croisent la Terre. Ça, c'est fait. On en a recensé 90%. Et maintenant, au sein de l'Union Astronomique Internationale et de l'ONU, eh bien, on émet des recommandations pour avoir un système d'alerte international pour faire face à ce risque.
Très bien, vous nous en reparlerez. David Bancelin, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes spécialiste, vous, de l'étude de la dynamique des astéroïdes.
Exactement.
C'est-à-dire un peu des calculs qui permettent de calculer justement leur trajectoire. Exactement. Et de prévoir ce fameux éventuel drame, oui, de la collision. Alors comment fait-on pour faire ce genre de calcul ?
Alors donc moi je m'occupe de traiter les données qui partent déjà des observations. Donc on les traite, on calcule une orbite. On sait déjà, dès qu'on calcule l'orbite, si c'est un astéroïde qui est potentiellement dangereux. Donc ça veut dire qu'il faut le suivre, qu'il faut y prêter attention. Ensuite, on va propager cette trajectoire dans le temps. Et si on arrive à détecter des trajectoires d'impact, alors on va associer une probabilité d'impact pour cet astéroïde potentiellement dangereux.
C'est-à-dire que vous arrivez avec les mesures à détecter la position à un instant donné de cet objet.
Oui.
Et ensuite, avec suffisamment de mesures, vous pouvez retracer la trajectoire.
Alors déjà, avec dès la détection, on peut déjà modéliser une trajectoire donc, qui va dépendre, dont la précision va dépendre déjà du nombre d'observations qu'on va avoir. Mais donc la probabilité va aussi dépendre de son nombre d'observations. Mais plus on va observer cet objet, plus la probabilité d'impact va s'affiner et on va avoir quelque chose d'assez réaliste pour le futur.
Alors justement, on peut prendre l'exemple d'Apophis dont j'ai parlé, dont la probabilité d'impact a beaucoup changé au fil de ces observations dont vous parlez.
Quand il a été observé, il avait été très peu observé, mais on avait détecté une probabilité d'impact maximale de 1 sur 37, mais c'était pour l'année 2029. Donc ça a suscité pas mal d'engouement parce que c'était un cas sans précédent.
Donc l'année 2029 était celle de l'impact.
Celle qui avait été calculée à l'époque. Ouais. À l'époque, et donc nous, on a une échelle de risque qui va de 0 à 10, et il avait été classé quand même 4, ce qui était vraiment le phénomène sans précédent. Et des observations supplémentaires, qui sont étalées sur quelques jours après la prédiction, ont permis d'écarter tout risque d'impact en 2029, mais d'autres risques d'impact, précisément celui de 2036, est apparu, mais avec une bien plus faible probabilité, évaluée à 1 sur 500 000 maintenant.
Oui, ce qui est plus rassurant. Jean-Pierre Luminet.
Oui, j'aimerais quand même rappeler que seule une toute petite fraction des astéroïdes sont potentiellement dangereux, puisque, on ne l'a pas encore dit, mais les astéroïdes circulent pour la plupart tranquillement entre les orbites de Mars et Jupiter, relativement bien calées, parce que ce sont en fait des vestiges du système solaire primitif, vraisemblablement des cailloux qu'on appelle les planétésimales, qui datent de l'origine du système solaire, qui n'ont probablement pas réussi à se coller ensemble pour former une planète, comme normalement ça s'est produit ailleurs, probablement en raison de perturbations gravitationnelles. Et donc, sur ces millions d'astéroïdes, seule une toute petite partie est éventuellement dangereuse, tout simplement parce qu'il y a des perturbations gravitationnelles, des sortes de ruades imprimées, par exemple, par Jupiter, qui est une planète très massive, qui font sortir, en fait, quelques astéroïdes de leur trajectoire normale et sécurisée. Alors, il y en a qui migrent vers l'extérieur de système solaire, on en connaît plein, donc cela évidemment ne présente aucun danger, mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des trajectoires qui en viennent à tournant toujours autour du Soleil bien entendu, mais viennent à croiser cette fois-ci l'orbite de la Terre, c'est cela qu'on appelle les géocroiseurs. Mais même parmi ces géocroiseurs-là, seule une relative faible fraction est appelé astéroïde potentiellement dangereux. Il y a une définition très nette d'ailleurs, c'est un astéroïde de plus de 140 mètres de diamètre s'approchant à moins de 8 millions de kilomètres de la Terre. On en connaît, je crois, 4700, on en a recensé. 4700, on pense qu'on n'en connaît que 20 à 30% à l'heure actuelle. Alors, en revanche, les astéroïdes de 1 km, qui cela, effectivement, en cas d'impact, provoquerait des dégâts, effectivement, beaucoup plus importants, on pense les connaître à environ 90%, et surtout ceux que l'on connaît, les calculs de trajectoire faits, justement, à l'Institut Mécanique Céleste et autres lieux, permettent de dire que, d'ici quelques siècles, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème d'impact avec un très gros astéroïde.
Très bien, justement, Patrick Michel, vous nous parliez de ces classements d'astéroïdes en fonction de la taille. Et vous disiez que, effectivement, on a identifié 90% de ceux qui font plus d'un kilomètre. Mais quel est le taux d'identification pour ceux qui sont plus petits, donc au-dessus de ces 140 mètres, entre 140 mètres et un kilomètre?
Alors effectivement, le prochain but, c'est d'atteindre les 90% des objets plus grands que 140 mètres. Pourquoi ? Parce que 140 mètres, c'est le seuil pour faire une catastrophe au minimum régionale. Au-dessous de ça, la plupart du temps, ils explosent dans l'atmosphère, ou alors ils tombent et font des dégâts très locaux. Mais comme la Terre est couverte pour les deux tiers d'eau, et puis le reste, c'est essentiellement des déserts, hein, parce que même si on est surpeuplé, les gens aiment bien habiter sur les régions côtières, par exemple, comme à Nice. Donc du coup, la probabilité qu'un événement local se produise au-delà d'une zone habitée est très faible. On a eu en 1908 l'explosion d'un objet au-dessus de la forêt de la Tunguska en Sibérie, qui a pulvérisé 2000 km² de forêt. Et c'est un objet d'à peu près 50 mètres qui a explosé à 8 km dans l'atmosphère. Et ça, ça se produit tous les 100 à 1000 ans. Et pourtant, on n'a jamais eu pour l'instant de mort d'astéroïdes. Donc on voit bien que pour des tout petits objets, même si le risque n'est pas totalement nul, il est, disons, on peut le négliger au premier ordre. Par contre, pour des objets au-delà de 140 mètres, si ça tombe, ça fait un peu plus mal. Et c'est pour ça qu'on a défini ce but. Pour compléter ce que disait Jean-Pierre, effectivement, ce n'est qu'une petite partie des astéroïdes qui croisent la Terre. D'ailleurs, la plupart finissent dans le Soleil. 60% d'entre eux finissent par une collision avec le Soleil, donc pas avec une planète solide. Et simplement 10 à 20% rentrent en collision avec une planète et pas nécessairement la Terre. Et pour donner un ordre de grandeur, on estime qu'il y a à peu près 1 million de corps plus grands que 1 km entre Mars et Jupiter, tandis qu'il n'y en a simplement que 1000 à peu près qui croisent la trajectoire de la Terre. Donc c'est vraiment une sous-population dont la plupart d'ailleurs, comme le disait Jean-Pierre, viennent de la ceinture des astéroïdes et finissent par croiser la Terre parce qu'il y a des perturbations dans cette ceinture, des collisions qui génèrent des fragments, qui les envoient sur des routes instables et qui les font croiser la Terre.
Alors justement, Apophis, par rapport aux tailles dont vous parliez, il est justement dans cette catégorie au-dessus de 140 mètres, David Dorsin.
170 mètres estimés de diamètre.
270.
Donc il rentre vraiment dans la catégorie des objets qu'on souhaite vraiment quantifier au maximum.
Et là, on a une idée de l'impact d'un tel objet et des dégâts vous citiez la ville de la France, comme Jean-Pierre Luminet, comme taille de destruction sur Terre.
Oui, on peut estimer effectivement la dévastation provoquée par un corps de 300 mètres de diamètre correspondrait, enfin, si, effectivement, à la dévastation d'un petit pays, hein, comme la France, quelque chose comme ça. S'il tombe dans l'océan, ce serait différent, mais il y aurait des tsunamis avec des vagues de plusieurs dizaines de mètres de hauteur qui pourraient également causer évidemment beaucoup de ravages sur les côtes. Donc c'est effectivement un petit peu la taille critique à partir de laquelle il y aurait réellement des problèmes sérieux et donc justement notre réflexion, les efforts d'abord de prévention, c'est-à-dire pour les détecter suffisamment longtemps à l'avance et puis éventuellement au cas où il y en a un qui fait éruption et qui nous menace sur une échelle allant de quelques mois où là on ne saurait pas faire grand-chose à plusieurs dizaines d'années où là peut-être on peut envisager des moyens, c'est là que portent nos réflexions.
Et un impact de ce type qui détruirait la France par exemple aurait des répercussions globales, enfin...
Ce serait essentiellement tout de même des répercussions plus économiques, enfin des pertes humaines monumentales évidemment, et puis évidemment des répercussions économiques et autres, mais rien à voir tout de même avec ce que l'on appelle les astéroïdes tueurs, qui eux sont des astéroïdes qui dans le passé ont provoqué des extinctions massives d'espèces. Un astéroïde de 1 km ou moins de 400 mètres comme Apophis ne détruirait absolument pas les espèces, ça perturberait notre civilisation technologique, ce genre de choses, évidemment, mais c'est loin de provoquer une catastrophe à l'échelle planétaire. Pour cela, il faut un astéroïde de plusieurs kilomètres de diamètre, de sorte que lorsque l'astéroïde impacte la Terre, les poussières qui sont libérées, puisque l'astéroïde est entièrement pulvérisé, sont injectées dans l'atmosphère. Il faut un volume suffisant de poussière pour bloquer la lumière du Soleil, plonger la Terre dans une sorte d'hiver cosmique qui va durer des mois, donc arrêter la photosynthèse, rompre la chaîne alimentaire et provoquer donc les extinctions massives espèces que la Terre a connues à maintes reprises dans son passé.
Comme celle des dinosaures, il y a 65
millions d'années, où 80% des espèces vivantes, on estime, ont disparu, dont les dinosaures.
Juste une petite précision pour compléter.
David Bancelin.
Juste pour compléter, juste pour rassurer un peu le public, on estime à peu près qu'il faut une échelle de 100 millions d'années entre un astéroïde tueur. Hein. Mmh. Mais par contre, pour la fréquence, pour un astéroïde entre 100 et 400, c'est à peu près tous les 10 000 ans. Donc il y a quand même... C'est pas quelque chose qui peut arriver comme ça, vraiment, du jour au lendemain, on a assez...
Et le dernier, donc, a eu lieu sur cette catégorie-là.
Alors, si je me trompe pas, peut-être Patrick va répondre à cette question, mais je crois que c'était à Tunguska.
C'est celui de la Sibérie.
Voilà. Ah oui, mais ça, c'était un petit... comme l'a dit Patrick, c'était un petit corps d'une cinquantaine de mètres. Hein. Là, je pense que le dernier gros, enfin, lors du kilomètre, il y a un cratère en Russie qui s'appelle le cratère de Popigaï, qui date d'environ 1 million d'années.
Patrick Michel, sur ces 90%, il y a 90% donc de ces fameux énormes astéroïdes qui pourraient avoir ce type de conséquences sur la Terre. Donc ça veut dire qu'il y en a 10% qui sont pas détectés aujourd'hui. Comment sait-on qu'on en connaît que 9 sur 10?
Alors c'est parce qu'en fait on a développé des modèles de la population des géocroiseurs, des modèles théoriques, hein, mais validés par les observations. Et du coup on a pu estimer ce nombre d'objets de l'ordre de 1000 plus grand que 1 km de diamètre. Et donc comme on en a découvert 900, eh ben on sait qu'il en reste 100 à découvrir. On devrait les découvrir rapidement, parce que maintenant on a des programmes d'observation bien costauds qui permettent de les voir. Donc je suis pas très inquiet par rapport à cela. Le problème est plus pour les objets beaucoup plus petits, donc jusqu'à 140 mètres de diamètre, où là, il faut savoir qu'un astéroïde, ça émet une lumière très très faible. Hein. C'est très difficile à découvrir parce qu'ils n'émettent pas leur propre lumière, hein, contrairement aux étoiles. Donc ce sont des tout petits points lumineux. On les appelait la vermine du ciel à un moment donné. Et l'avantage, c'est qu'ils bougent par rapport aux étoiles. Donc c'est comme ça qu'on les détecte, mais ils sont très faibles. Donc il faut vraiment avoir des grands télescopes ou un réseau aussi d'amateurs pour les suivre. Et les amateurs font énormément de travail là-dessus pour pouvoir augmenter les observations. Mais disons, pour ceux de 1 km, on est serein. Je voudrais quand même rassurer les gens pour dire que ces astéroïdes, c'est vrai qu'on n'en connaît pas grand-chose. Parce que depuis le sol, comme je l'ai dit, on n'a aucune connaissance de leurs propriétés physiques, de quoi ils sont faits depuis le sol. Au mieux, on peut avoir une petite idée de leur composition, mais de surface. Et c'est les missions spatiales nous ont montré, celles qui sont allées en voir quelques-uns ou les ont survolés, qu'ils sont tous bien différents les uns des autres. Et ils ont un intérêt scientifique énorme, ce que disait Jean-Pierre au début, c'est qu'ils nous racontent un petit peu l'histoire du système solaire. En fait, ce sont des objets qui sont très petits, contrairement aux planètes, qui elles sont grosses, elles ont chauffé, donc le matériau a été transformé. Et ces objets sont suffisamment petits pour avoir gardé la composition initiale du système solaire, plus ou moins, bien sûr. Et donc c'est très intéressant, parce qu'en les étudiant, on peut mieux connaître les ingrédients qui ont permis de former les planètes. C'est un peu comme si le système solaire, c'était une omelette maintenant. Et c'est pas évident de savoir qu'on est parti de beaux jaunes d'œufs pour faire une omelette. Et les astéroïdes sont un petit peu les jaunes d'œufs qui ont fabriqué cette omelette. Et c'est pour ça qu'on veut les étudier, qu'on fait des projets de mission spatiale pour amener des échantillons, comme la mission Marco Polo R à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne qui est en étude, ou les missions Osiris-Rex et Hayabusa 2 au Japon et aux États-Unis, qui ont pour but de ramener des échantillons de ces objets, parce qu'on veut comprendre de quoi ils sont faits, éventuellement s'ils ont de la matière organique qui aurait pu d'ailleurs contribuer à apporter la vie sur Terre. Donc voilà, tout ça, en plus du risque qu'ils présentent, ils ont des sacrés avantages, c'est qu'ils peuvent nous renseigner sur l'histoire passée de notre système planétaire.
Je vous rappelle que vous écoutez Sciences Publiques sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio et que nous débattons aujourd'hui de la question « Un astéroïde peut-il provoquer la fin du monde ?» Avec nos invités, Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris et directeur de recherche au CNRS, Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, directeur de recherche au CNRS et responsable du groupe de planétologie du laboratoire Lagrange, et David Bancelin, chercheur en astronomie à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE. Alors, pour revenir sur ce que vient de nous raconter Patrick Michel, c'est effectivement une notion des astéroïdes à laquelle on ne pense pas forcément, Jean-Pierre Luminet, cette espèce de trace un peu archéologique ou cosmologique du début de l'univers, c'est-à-dire que ce sont des objets qui, comme vous l'avez bien expliqué, c'est-à-dire en gros, c'est un petit peu les copeaux de la formation de l'univers.
Pas de l'univers, mais de notre petit monde à nous, c'est-à-dire au système solaire, 4,6 milliards d'années à peu près. Il est passionnant et surtout fort instructif d'avoir une meilleure idée sur la composition des astéroïdes. On a déjà quelques idées parce que il se trouve que les météorites, disons les petits cailloux qui tombent fréquemment sur Terre, beaucoup d'entre eux sont des fragments d'astéroïdes. Pas tous, mais beaucoup sont des fragments d'astéroïdes. Et justement, on a commencé à classer les météorites en fonction de leur composition. Il y a par exemple des astéroïdes métalliques qui viennent d'astéroïdes qui donc sont probablement de nature essentiellement métallique, enfin du moins en surface. Puis il y a des météorites de nature plus pierreuse, faites plutôt de silicates, etc., de matériaux plus légers, donc plus friables, qui viennent
viennent également d'une autre classe d'astéroïdes. Donc rien qu'avec déjà l'étude des compositions des météorites, des petits bouts d'astéroïdes qui tombent sur Terre, on a peut-être effectivement une idée sur la composition des astéroïdes, les familles, comment ça se regroupe dans la ceinture principale. Il y a un double aspect vraiment intéressant là-dedans. Premièrement, mieux connaître la composition d'un astéroïde permet éventuellement de mieux envisager, de mieux estimer les moyens qu'on aurait, par exemple, soit de les détruire ou de les dévier, parce que selon qu'il est métallique ou pierreux, la cohésion est tout à fait différente, bien entendu, donc les moyens seraient différents. Et puis, du côté beaucoup plus sympathique, la prospection du futur, parce que, effectivement, comme l'a dit Patrick, les astéroïdes sont bourrés de matières premières dans des compositions de surface qui ne sont pas les mêmes qu'à la surface de la Terre, puisque la Terre a fondu dans son passé, les éléments lourds ont coulé au centre, et si on veut chercher du cobalt, du tungstène, du platine, des matériaux lourds, des matières premières qui s'épuisent, un jour on ira les chercher dans la ceinture principale d'astéroïdes, parce qu'il suffira de les gratter en surface et de la ramener sur Terre. Et les premiers pays qui feront ça, ils feront comme au XVIe siècle, quand on a découvert le Nouveau Monde, l'Espagne, le Portugal, la France avaient affrété des grands navires pour faire des expéditions avec un retour sur investissement. Et ça, c'est l'un des aspects extrêmement intéressants pour le futur des astéroïdes, les futures mines de l'espace.
La mine de l'espace, oui. À quelle distance tout de même, cette ceinture, au plus près
Environ à 350 millions de kilomètres, oui.
Ce qui,
comme le mien, mon numéro 5523, mon petit astéroïde, là, il fait une douzaine de kilomètres, mais lui, il est sagement calé entre les orbites de Mars et Jupiter. Ce n'est malheureusement pas un titre de propriété, simplement un nom honorifique. C'est dommage pour les investissements futurs, mais bon, c'est comme ça.
Alors, je voudrais qu'on s'explique un petit peu sur les méthodes d'observation. Peut-être, David Bancin, ouais. Vous avez parlé de ces observations qui sont essentielles pour faire les calculs de trajectoire. Qui observe aujourd'hui des astéroïdes et qui est en charge de cette mission dont nous a parlé Patrick Michel de recensement et aussi d'observation de classement par catégorie.
Alors, qui observe, ce sont tout, comme l'a dit Patrick, les professionnels et les amateurs, donc essentiellement les professionnels. Donc on a pas mal d'observatoires répartis un peu partout dans le monde, donc ces observations optiques qui sont faites avec des télescopes. On a aussi des observations dites radar. Donc, c'est-à-dire on fait des mesures assez précises de distance et de vitesse de l'astéroïde. À partir de ces observations radar assez précises, on peut parfois et assez souvent avoir dériver quelques caractéristiques physiques sur les dimensions, sur aussi l'orientation de son orientation de rotation, avoir des renseignements aussi au niveau de sa composition. Et pour ça, il faut que l'astéroïde soit dans des conditions favorables d'observation, c'est-à-dire assez proche de la Terre, pour pouvoir faire des observations radar. Donc il y a des centres qui s'appellent le Minor Planet Center, qui est chargé de récupérer toutes les données observationnelles que nous récupérons pour pouvoir les traiter, qui récupère aussi tous les astéroïdes qui sont numérotés, tous les astéroïdes connus, qui soient des jours croiseurs, mais qui peuvent être aussi de la ceinture principale, voire beaucoup plus loin. Et donc ces bases de données sont cette base de données est utilisée essentiellement par la NASA pour aussi calculer les risques d'impact, pour faire un suivi de tous ces objets géocroiseurs et potentiellement dangereux.
Patrick Michel, où en est-on aujourd'hui? C'est-à-dire, vous avez dit que on en connaissait l'essentiel pour ce qui est des tailles supérieures à un kilomètre. Pour les autres, on en est beaucoup plus loin. À quel rythme découvre-t-on les astéroïdes au fur et à mesure donc de ces efforts d'observation?
Écoutez, là, ça devient un petit peu aléatoire parce que on attend l'arrivée de grands télescopes et la disponibilité du temps pour les astéroïdes, parce que c'est pas gagné, tels que le télescope Spanstar qui est développé à Hawaï et un autre télescope américain. Pour l'instant, la plupart des observations sont faites par le Catalina Sky Survey, qui est un télescope américain qui a fait la plus grande partie du travail de découverte. Mais là, on a atteint, on commence à stagner un peu, parce que on a découvert les objets les plus faciles, et maintenant que ça devient plus difficile, ça risque de prendre un peu plus de temps. Donc on estime qu'en 10 ans, on peut peut-être le faire si ces télescopes fonctionnent. Sinon, il y a une autre possibilité, c'est d'aller dans l'espace, de mettre un satellite sur l'orbite de Vénus ou entre Vénus et Mercure. On avait montré par exemple à l'Observatoire de Nice qu'en mettant un satellite entre Vénus et Mercure, donc à l'intérieur de la trajectoire de la Terre, on pouvait en 5 ans recenser l'ensemble des objets potentiellement dangereux plus grands que 300 mètres. Donc en à peine 5 ans, parce que ben, depuis la Terre, on a deux problèmes. Le problème, c'est qu'on a l'atmosphère, qui évidemment fait que comme ces objets sont très faiblement lumineux, ça les rend encore plus difficiles à observer. Et puis en plus, on n'a pas l'intégralité du ciel à notre disposition pour découvrir tous ces objets. Alors on a là dans l'espace et sur des trajectoires appropriées, eh bien on peut augmenter la zone observable et ainsi faire ces découvertes-là. Alors il y a une fondation qui s'appelle la fondation B612 aux États-Unis qui a décidé d'envoyer un télescope dans l'espace. On ne sait pas s'il est complètement financé pour faire ce travail-là en 5 ans. Donc à voir.
Donc une sorte de sentinelle dans l'espace qui nous permettrait d'avoir une vision plus claire de ce qui s'y passe.
D'ailleurs, c'est le nom, de la mission spatiale qu'ils envisagent, c'est Sentinelle.
Mais au moins, c'est très expressif. Ça veut dire qu'on a plus de mal, finalement, à découvrir ou à explorer tous ces astéroïdes qui nous entourent, alors qu'on découvre quasiment tous les jours de nouvelles exoplanètes qui sont à des millions d'années-lumière, Jean-Pierre Luminet. Donc ça prouve que c'est pas si facile d'observer des objets.
Les techniques de détection sont extraordinairement différentes.
Certes.
On ne détecte pas du tout les exoplanètes avec les mêmes techniques que les astéroïdes. Et donc, oui, ça explique aussi pourquoi, comme l'a rappelé Patrick tout à l'heure, un petit astéroïde qui fait 50 mètres réfléchit à peine un petit peu la lumière du Soleil, bien entendu. Et donc, il est incroyable. Faible sur le plan de sa luminosité. Donc en général, on ne le voit pas venir ou alors on le voit au dernier moment. Voilà.
Donc c'est toute la différence avec les exoplanètes qui sont détectées grâce justement à leurs étoiles qui permettent de...
Pour les exoplanètes, il y a plusieurs techniques de détection, mais l'une des planètes... l'une des façons, c'est de mesurer en fait la petite perturbation gravitationnelle qu'elles exercent sur l'étoile autour de laquelle elles tournent. Donc l'étoile, on n'observe pas la planète directement, on observe l'étoile qui fait une légère petite danse autour du centre de gravité commun. Et c'est comme ça que l'on détecte le grand nombre d'exoplanètes.
Patrick Michel, vous avez parlé des amateurs, ce qui veut dire que aujourd'hui, un amateur peut découvrir un astéroïde et l'inscrire ou le faire authentifier, j'imagine, et inscrire dans le catalogue qui est constitué en ce moment.
Absolument. Je pense que si on n'avait pas les amateurs, au moins pour le suivi des objets une fois découverts, on aurait des difficultés. Ce que disait Jean-Pierre est juste, les techniques d'observation par rapport aux exoplanètes sont différentes. Et il y a aussi un autre problème, c'est que le temps que l'on attribue aux observations des astéroïdes est aussi n'est pas privilégié, bizarrement. Donc ça veut dire qu'on est en compétition avec les programmes d'astrophysique qui, en général, ont la plupart du temps et il n'y a malheureusement pas de télescope dédié aux astéroïdes, ce qui rend difficile la chose. Et c'est très important, les amateurs, et je tiens aussi à dire que c'est pour ça que, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de théorie de conspiration. Toujours les observations sont rendues publiques, même quand il y a un risque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des alarmes, parce qu'on a besoin des amateurs pour faire le suivi des objets qui, lors des premières observations, comme l'a expliqué David, peuvent présenter un risque parce que la position est mal définie. Et c'est d'ailleurs toute la subtilité. Enfin, c'est toujours délicat parce que quand on observe une première fois, très souvent, on trouve une probabilité d'impact qui est non nulle. Et la question, c'est de se dire, ah oui, mais si on l'annonce, on va affoler tout le monde. En même temps, si on l'annonce pas, les amateurs vont pas suivre. Donc ce sont aussi ce genre de choses qu'on essaie de discuter dans ces groupes de travail, c'est comment informer de manière complètement ouverte le public des nouvelles découvertes et en même temps sans que soit les médias, soit d'autres prennent cette information pour créer une panique.
David Bancelin, ça veut dire que les amateurs dont on parle sont suffisamment équipés pour pouvoir détecter des tout petits objets. On a vu la difficulté, on a mentionné la difficulté de détection de ces objets dans l'espace. Et ça veut dire que malgré tout, les amateurs peuvent assurer des missions comme celle-là de suivi ou même de découverte.
Tout à fait, Patrick l'a bien expliqué. On a vraiment besoin d'eux pour pouvoir, lorsqu'on a un astéroïde qui est menaçant, on a besoin d'eux justement pour faire un suivi, pour augmenter le nombre d'observations, pour avoir des observations de qualité. Ils font des observations de qualité. De toute façon, nous, on les traite, ces observations, mais ils font des observations de qualité qui sont prises en compte et on a besoin de leur support. C'est vraiment un support pour pouvoir affiner nos calculs.
Concrètement, qu'est-ce qu'ils vous adressent comme information? Ce sont des photos, des mesures?
Alors, on ne m'adresse rien.
Ou vous, à vous, rien, peut-être.
ils envoient des positions. C'est des positions sur la sphère céleste. Avec la date à laquelle ces positions ont été mesurées. On arrive à mesurer ses positions par rapport à un catalogue, qu'on appelle un catalogue de référence, un catalogue d'étoiles. Donc c'est indiqué aussi, le catalogue qui a été utilisé pour faire ce qu'on appelle une réduction astrométrique, c'est-à-dire pouvoir déterminer la position de l'astre, c'est-à-dire des positions en déclinaison en ascension droite, et qui, c'est ce qui est envoyé au centre de données public.
Alors Jean-Pierre Luminet,
la grosse différence même entre les amateurs et les professionnels pour ce type d'observation, c'est la couverture du ciel. Parce que comme l'a rappelé Patrick, un grand télescope professionnel, il est dédié à telle ou telle observation. En général, d'ailleurs, sur des sujets à la mode dont on parle, comme les exoplanètes par exemple, il ne couvre qu'une toute petite partie du ciel. Il est extrêmement difficile d'avoir beaucoup de temps de télescope. En revanche, donc, les amateurs, il y en a dans le monde entier, et même avec des instruments évidemment plus modestes que les professionnels, ils ont une couverture totale de ciel, ce qui effectivement permet de découvrir beaucoup d'objets que les professionnels ne peuvent pas découvrir. Mais quand un amateur a le soupçon qu'il vient de découvrir un nouvel astéroïde ou une comète, on n'a pas parlé des comètes, mais ça fait partie des objets également intéressants et potentiellement dangereux, eh bien il le signale effectivement aux professionnels, et là après les professionnels peuvent braquer leurs instruments sur l'objet en question, d'abord découvert par les amateurs.
Et pour nous, c'est beaucoup plus
Patrick
important.
Michel.
Excusez-moi,
oui.
C'est beaucoup plus important d'avoir des observations qui sont faites à différents endroits. Donc, c'est-à-dire avec la contribution des amateurs, que des observations, beaucoup d'observations, mais faites au même endroit, parce que sinon, quand c'est fait à des endroits différents, on a une meilleure contrainte, voilà, sur l'orbite de l'objet, donc une meilleure précision.
Donc, si je comprends bien, il manque quand même du temps d'observation. Vous l'avez signalé en termes d'utilisation des grands équipements, peut-être aussi de l'argent consacré à cette mission, puisque ce télescope dans l'espace, eh bien, il faudra le financer, j'imagine. Vous avez parlé d'une fondation. Donc il y a aussi une question de prise de conscience du danger. Et là, quand on parle de délais très très importants, comme des dizaines de milliers d'années, voire des milliers d'années seulement, ça sera difficile de mobiliser de l'argent à une époque où il est particulièrement rare. Patrick Michel.
Oui, alors écoutez, là je vais mettre le pied dans le plat.
Allez-y.
En fait, ouais, quand on parle de budget sur ces choses-là, moi personnellement, j'estime que c'est complètement indépendant du contexte économique, parce que on parle par exemple une mission spatiale pour amener un échantillon d'astéroïdes. Donc là, on vise quelque chose d'encore plus ambitieux. C'est de l'ordre de 500 millions d'euros. Alors ça paraît beaucoup quand on le dit comme ça, mais 500 millions d'euros, c'est 2 jours de guerre en Irak. Et donc, tous les 2 jours, les États-Unis dépensaient 500 millions d'euros en Irak. Donc, dans un budget global d'un grand pays, c'est dans le bruit du budget, je veux dire, ça se voit même pas. Donc, c'est plus une volonté politique qu'il faut engager. Et c'est pour ça que je disais que, depuis la prise de conscience, d'ailleurs, avec la comète qui est rentrée en collision avec Jupiter, il y a eu d'abord des résolutions. Il n'y a pas eu grand-chose de plus, parce que toujours, on ne change pas l'idée des gens en un jour. Et depuis, il y a eu quand même des choses qui sont faites. Par exemple, la Commission européenne a pour la première fois financé un consortium dont je fais partie, qui s'appelle NEOShield, et qui a pour but d'étudier les concepts de mission pour dévier des astéroïdes, les observations à faire pour mieux connaître leurs propriétés physiques, et moi je prends en charge les simulations d'impact, puisque l'idée ça serait éventuellement de dévier un astéroïde par un impact. Et ça c'est financé pour quelques millions d'euros. Donc je veux dire, au niveau de l'argent, pour un risque naturel qui existe, hein, qui est peut-être le moins probable par rapport à court terme, par rapport au tsunami, au volcan, c'est le seul qui peut être prédit et évité si on en met les moyens. Et avec quelques centaines de millions d'euros, on peut faire une mission spatiale pour les découvrir depuis l'espace, comme veut le faire la Fondation B612, et aussi une mission de test de déflexion. Donc en gros, avec même 1 milliard d'euros, on peut, au moins pour ce risque-là, arriver à mieux le connaître, mieux le mesurer, et puis mieux savoir aussi comment s'en protéger.
Enfin, 500 millions d'euros, c'est par astéroïde ?
Ah ben c'est une mission spatiale, de toute façon c'est toujours quelques centaines de millions d'euros, ça c'est sûr qu'il faut un lanceur, il faut un satellite, mais c'est pour ça que quand on parle d'aller miner les astéroïdes, ça sera pas aussi simple que ça, parce que déjà, bon, l'avantage des astéroïdes qui croisent la Terre, c'est qu'ils sont plus faciles à atteindre que ceux de la ceinture des astéroïdes, donc c'est pour ça qu'on vise cela, mais quand on voit donc le coût pour ramener quelques grammes, hein, parce que là, pour les missions de retour d'échantillons comme Marco Polo, on vise une centaine de grammes, voire
donc
un
ça,
kilo.
Excusez-moi, ça a, déjà été, ça a déjà été fait. Ça, on a déjà ramené de la poussière d'astéroïdes avec
la mission Hayabusa japonaise l'a fait pour, c'était 200 millions de dollars la mission, donc ça fait 150 millions d'euros. Et ça, ça a déjà été fait. Alors elle a ramené que quelques microgrammes, hein, c'était des petites poussières micrométriques. Et maintenant, les trois missions, dont deux en développement, OSIRIS-REx à la NASA et Hayabusa 2 au Japon, et j'espère Marco Polo pour l'Agence spatiale européenne, ont pour but de ramener beaucoup plus, quelques dizaines de grammes, voire centaines de grammes. Et là, on voit que c'est quand même des budgets, comme je le disais, par rapport au budget d'une nation, c'est pas grand-chose. Mais c'est vrai que pour en faire un commerce, ça devient un peu compliqué quand même, parce qu'avec 100 grammes, on fait pas grand-chose. Alors, on fait beaucoup de science, mais on fait pas beaucoup de commerce.
Ces fameuses mines dont parlait Jean-Pierre Luminet ne semblent pas d'une rentabilité absolue, dans la mesure où, en plus, les matériaux qu'on va y découvrir sont des matériaux qu'on connaît déjà, qui ne sont pas forcément exotiques qu'on pourrait le rêver.
Pas nécessairement, parce que on sait justement le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas vraiment de quoi sont faits les astéroïdes en globalité. On a les météorites, Jean-Pierre l'a bien expliqué, mais ces météorites, elles présentent un biais, c'est que c'est le matériau le plus robuste qui traverse l'atmosphère et qui tombe sur Terre.
Il y en a beaucoup qui ont disparu avant. Quoi.
Ah oui, ben, on a eu un exemple, un objet qui s'appelait 2008 TC3, on a découvert 20 heures avant l'arrivée sur Terre. C'était en 2008, en octobre 2008. On a pu mesurer sa taille, etc. Et il a perdu 90% de sa masse dans l'atmosphère. Et on a retrouvé quelques fragments au Soudan, d'ailleurs, qui contiennent... Enfin, c'est délirant. Quand on a retrouvé ces fragments, on n'a rien compris. Parce que ça contient des choses qui se forment dans différentes régions du système solaire, tout ça regroupé dans quelques fragments. Donc, c'est là qu'on s'est aperçu que notre idée de la composition basée sur les observations depuis le sol n'est pas évidente. Par contre, là où Jean-Pierre a raison, c'est que je pense que, moi je pense à court terme là, mais qui aurait dit il y a un siècle que le transport le plus sûr serait l'avion ? Donc je ne sais pas dans un ou deux siècles ce qui se passera pour miner les astéroïdes, mais je dirais qu'à court terme c'est quand même compliqué.
Vous écoutez Science Publique sur France Culture en direct depuis le studio 1061 de la Maison de la Radio. Nous débattons aujourd'hui de la question, un astéroïde peut-il provoquer la fin du monde ? Avec nos invités Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l'Observatoire de Paris et directeur de recherche au CNRS, Patrick Michel, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, directeur de recherche au CNRS et responsable du groupe de planétologie du laboratoire Lagrange, et David Bancelin, chercheur en astronomie à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'IMCCE. Alors Patrick Michel a commencé à en parler, je voulais quand même que l'on aborde dans cette émission la fameuse question du détournement.
Les stratégies, oui.
Quelle stratégie vous les abordez également
donc,
dans votre ouvrage.
On a mentionné effectivement le programme NeoShield et donc en fait les prises de conscience lentes mais progressives du risque potentiel. Donc NeoShield en fait ça veut dire NEO, c'est Near Earth Object, ça veut dire objet proche de la Terre, et Shield ça veut dire évidemment bouclier. Alors... finalement, a priori, on peut dire qu'il y a deux moyens. Il y a détruire ou dévier. Hein. Détruire, ce serait un petit peu la solution de dernier recours, parce que, par exemple, ce serait soit un astéroïde trop gros pour le dévier, ou alors que l'on détecterait trop tard. Et donc là, la seule possibilité, ce serait effectivement l'arme nucléaire. Bon, ça ne plaît à personne, mais...
C'est la solution.
Et qui ne pourrait en plus fonctionner que jusqu'à une certaine taille. Un astéroïde de 10 km qui déboulerait comme ça, on ne saurait pas quoi faire.
La solution
mais,
Bruce Willis.
Il n'en aurait pas de Bruce Willis pour aller poser des charges nucléaires dessus. Donc, bien plus intéressant et prometteur sont les techniques de déviation de la trajectoire de l'astéroïde. Alors là, il y a un grand nombre de scénarios qui ont été étudiés. Plus ou moins réaliste, il y a des scénarios que j'appellerais technologico-romantiques ou poétiques. Par exemple, imaginez dévier la trajectoire d'un astéroïde en accrochant, et là il faudrait un Bruce Willis effectivement, en accrochant des voiles solaires, puisqu'il se trouve que la trajectoire de l'astéroïde, c'est un équilibre entre la gravitation et la pression exercée par le rayonnement solaire. Et si l'on déploie de très très grandes voiles, on peut modifier cet équilibre et détourner l'astéroïde de sa trajectoire si on s'y prend suffisamment à l'avance. Mais il faudrait évidemment aller planter les pieux d'attache des voiles solaires. On peut imaginer aussi...
changer un petit peu la masse, écorcher la surface d'un astéroïde, soit par une petite explosion, non pas sur l'astéroïde, mais à côté, qui peut enlever un petit bout de la masse d'astéroïde. Donc ça dévierait évidemment sa trajectoire. On peut imaginer embarquer des immenses miroirs dans l'espace qui focaliseraient les rayons du soleil sur un petit point de l'astéroïde et vaporiseraient un petit bout de l'astéroïde. Voilà, alors ça, ce sont des moyens, comme tout de même, assez assez compliqués.
Donc alors, pas de laser, pas de d'armes.
Oui, alors si aussi, il y a eu beaucoup de réflexions, vous savez, avec le programme, l'ancien programme américain des boucliers antimissiles, qu'on appelait le programme de la guerre des étoiles. Il faut savoir que la partie militaire a été essentiellement abandonnée, en tout cas officiellement, mais il y a eu des retombées après dans le domaine de l'astronomie, et notamment l'utilisation, effectivement, de lasers ultra-puissants, également, qui pourraient vaporiser un petit bout de l'astéroïde, sont des choses qui ont été envisagées. Bon, maintenant, il faut voir que les choses qui sembleraient plus à notre portée, plus réalistes, ce seraient des techniques de déviation beaucoup plus paisibles.
Douces.
Enfin, plus ou moins paisibles. Alors, l'une d'entre elles, peut-être la plus paisible, ce serait ce qu'on appelle le remorquage gravitationnel. Remorquage gravitationnel, ça veut dire qu'on envoie une sonde spatiale qui va se mettre en orbite autour de l'astéroïde, et la simple perturbation gravitationnelle exercée par cette sonde fait une sorte de remorquage. Bon, c'est un remorquage sans tract, sans filin physique, mais ça fait quand même du tractage gravitationnel, et on peut imaginer embarquer, effectivement, l'astéroïde ailleurs de sa trajectoire. Encore faut-il pouvoir effectivement s'y prendre suffisamment à l'avance, c'est-à-dire lorsqu'il est suffisamment loin de sa trajectoire. Pour dévier un astéroïde, évidemment, il faut changer l'angle de son orbite, l'angle de sa vitesse. Et au plus il est loin, au plus l'angle est faible. Mais s'il est trop près, l'angle est grand, et donc il faut des moyens plus importants. Un autre moyen qui a été envisagé, c'est un petit peu une situation un peu plus d'urgence, c'est carrément de lancer une sonde spatiale, aller s'écraser sur l'astéroïde pour provoquer un impact qui éventuellement également le dévierait de sa trajectoire.
Patrick Michel, quelle est la solution qui vous paraît la plus réaliste?
Bonne question. Alors en fait, c'est des discussions qu'on a dans une conférence dont d'ailleurs je participe à l'organisation, qui s'appelle la Planetary Defense Conference, conférence défense planétaire, qui a lieu tous les deux ans. Prochaine fois, c'est en avril à Flagstaff, d'ailleurs, en Arizona. Et en fait, on voit des tas d'idées originales et parfois poétiques, comme le dit Jean-Pierre. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas testé, on ne saura pas. Et moi, je pense que la technique qui a le plus de chances de fonctionner, c'est celle qui a besoin de moins de connaissances a priori de l'astéroïde, à moins de pouvoir envoyer une mission précurseur pour aller l'identifier. Parce que, par exemple, le voile solaire, on l'utilise, il y a une mission japonaise qui est en fait un test de voile solaire, ça semble marcher, la pression de radiation permet de dévier les trajectoires. Mais comment on pose le voile ? On n'a pas Bruce Willis, mais même avec Bruce Willis, de quoi est fait la surface de l'astéroïde? Si c'est de la roche dure, on ne le plantera pas de la même manière que si c'est du sable. Et ça, on ne le sait pas a priori. Depuis le sol, on ne peut pas le savoir. Donc toutes les techniques qui consistent à poser quelque chose à la surface, sachant que c'est une surface, ses corps sont tout petits, sur lequel il n'y a quasiment aucune attraction, c'est-à-dire que sur Terre, ben là je vous parle, je m'excite, je saute sur ma chaise, je retombe. Si je fais la même chose sur un astéroïde, je pars en orbite, même je ne reviens jamais. Donc c'est très difficile de poser quelque chose à la surface d'un astéroïde, et encore plus quand on ne connaît pas ses propriétés mécaniques de surface.
Il faudrait deux missions à chaque fois, une mission d'exploration, une mission d'action ensuite, fonction du matériau détecté.
Exactement. Alors après, il y a le tracteur gravitationnel dont Jean-Pierre a parlé. Ça peut marcher que pour des corps vraiment petits, parce qu'il faut que le satellite soit suffisamment massif pour attirer vers lui l'astéroïde. Et ça aussi, il faudrait le tester. Parce que c'est pas du tout évident qu'on sache maintenir à une distance fixe un satellite d'un astéroïde dont on connaît pas la forme a priori. Il peut être très allongé. Et d'ailleurs, les astéroïdes qu'on a visités, certains comme Itokawa qui a été visité par la mission Hayabusa, étaient très très allongés. Ils tournent sur eux-mêmes, etc. Donc c'est pas évident.
Et le dernier, ils n'exercent pas de gravité. Donc on peut pas se servir de leur gravité pour tourner autour.
Ça c'est aussi se mettre en orbite, c'est difficile. Mais même on pourrait se mettre à proximité et puis essayer de l'attirer. Donc du coup, le fait que le satellite est plus massif que l'astéroïde, c'est ça qui nous arrange. L'autre technique, je ne veux pas être trop long, mais l'impacteur pour envoyer, donc dévier un astéroïde, ça selon moi, c'est la méthode que je privilégie, disons en termes qui nécessite le moins de connaissances de l'objet. Encore que, le problème, c'est qu'on ne va pas dévier une éponge de la même manière qu'une barre métallique. Donc avoir une connaissance de la structure interne de l'objet nous arrangerait. Mais au moins, en faisant justement tout le travail qu'on fait dans le consortium NEO Shield, avec les simulations numériques d'impact, on peut, disons, vérifier que, en tapant, on s'assure qu'on le dévie, même en extrapolant un petit peu. Et justement, on veut essayer de tester cette technique, parce qu'elle a un problème technologique, c'est que là, l'idée, c'est d'envoyer un projectile à 10 km par seconde, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de kilomètres heure, hein, il est chopé par le radar. Et comme ce sont des corps, donc on ne connaît pas la forme a priori, il faut doter au projectile un logiciel qui permet de faire une identification automatique de la forme de l'objet et qu'il se guide lui-même, parce que le temps avec un petit joystick comme dans un jeu vidéo pour guider le projectile, le signal mettrait trop de temps pour arriver. Donc c'est une technologie un peu complexe qu'il faudrait tester, comment guider un projectile, enfin auto-guider un projectile vers un astéroïde. Et on a d'ailleurs une étude avec un laboratoire américain pour dévier le satellite d'un astéroïde binaire, puisqu'on a 15% des astéroïdes qui sont doubles, et on voudrait tester la déviation d'un petit satellite d'un astéroïde binaire avec cette technique pour vérifier technologiquement si on est capable de le faire.
David Bancelin, vous, ça serait pour laquelle de ces techniques vous pencheriez plus?
Alors, juste deux choses, juste faire un petit commentaire, c'est que d'après ce qu'on comprend, il faut déjà qu'il y ait, on ait assez de temps pour préparer tout ça, c'est-à-dire entre le moment où on calcule la probabilité et le moment où l'impact est censé apparaître. Déjà, donc il faut beaucoup de temps déjà pour préparer.
D'où la nécessité d'observer.
Exactement. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est que on parle de déviation. Un astéroïde de sa trajectoire impactrice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule trajectoire impactrice. Par exemple, pour Apophis, il y a des impacts en 2036, mais il y a aussi des impacts en 2056, 2076.
Oui, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, en fait, ce n'est pas une rencontre unique. C'est-à-dire
exactement.
Que ces astéroïdes passent régulièrement à proximité de la Terre régulièrement, en fonction de leur orbite et de la nôtre.
Certains passages peuvent être des passages de l'ordre de l'ion terrestre qui sont des trajectoires impactrices. Donc, il faut être sûr aussi que on fait une mission pour dévier un astéroïde, ok, mais il faut être sûr aussi de ne pas le remettre sur notre trajectoire impactrice, c'est-à-dire à plus loin,
exactement. Tour suivant,
parce que là, on va
se retrouve aussi.
Parce qu'on change carrément l'orbite après, une fois que donc, le tracteur gravitationnel ou l'impacteur cinétique, on change la trajectoire, on modifie son trajectoire initiale, donc ça veut dire qu'on peut aussi. Faut faire attention.
Créer un danger en voulant.
C'est-à-dire que.
Résoudre.
Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est de mettre en évidence aussi ce qu'on appelle des zones, c'est ce qu'on appelle les trous de serrure, c'est-à-dire des zones dans lesquelles l'astéroïde doit passer inévitablement pour impacter la Terre dans le futur. Mais il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs dates d'impact. Il faut tous les mettre en évidence pour être sûr, pour avoir des zones à risque et des zones de sûreté, en fait.
Ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est justement la précision de ces mesures et la précision des trajectoires que vous calculez, puisque là, on voit que c'est très important.
Oui, et
que, en plus de ça, si on intervient très tôt, une toute petite déviation peut suffire, mais encore faut-il que les mesures soient très précises pour pouvoir la calculer et ensuite la vérifier.
C'est pour ça qu'on fait tout le temps on sollicite les observations, parce que c'est ce qui permet de réduire considérablement l'incertitude. Et il se peut, le plus souvent, dès qu'on détecte un astéroïde et qu'on calcule une probabilité d'impact, ces trous de serrure dont je vous parle sont souvent contenus dans l'incertitude en elle-même sur la position de l'astéroïde. Ce qui fait que, comme Patrick l'a dit, après la détection, la probabilité retombe forcément assez régulièrement proche de zéro. Mais on n'est jamais à l'abri du risque zéro, c'est-à-dire de l'astéroïde qui va faire que la probabilité va rester assez constante et assez forte un jour.
On peut rajouter aussi que pour certains astéroïdes, leur trajectoire présente une sorte d'horizon de prédictabilité, quelles que soient les précisions des mesures que l'on fait, parce que leur trajectoire rentre en résonance orbitale avec d'autres corps. C'est notamment le cas pour Toutatis, qui a été cité tout au début, qui lui est un astéroïde de grosse taille, il fait plusieurs kilomètres, il passe tous les 4 années et quelques près de la Terre, donc aucun risque pour les prochains passages, jusqu'à une cinquantaine d'années, et puis je crois savoir que une sorte d'un petit peu d'horizon de prédictabilité certaine au-delà de cet horizon peut-être de 50 ans ou du siècle.
Oui. David Bancelin.
Non, parce que l'incertitude justement elle grandit avec le temps, donc après on peut pas porter vraiment avoir un jugement vraiment crédible sur les probabilités qui sont de là du siècle.
Oui. Patrick Michel, est-ce que c'est pas une difficulté justement pour vous qui essayez de plaider pour à la fois des missions vers les astéroïdes, le comptage des astéroïdes et puis le test de solutions de détournement, que d'avoir une marge quand même d'incertitude sur ce qui va se passer au cours des prochaines années?
Oui, enfin, pour les objets qu'on connaît et qu'on pourrait viser pour une mission spatiale, en espérant qu'elle ne se fait pas dans 100 ans, on connaît bien les trajectoires et on connaît bien les lois de la mécanique céleste qui nous permettent d'atteindre depuis la Terre un astéroïde dans les 20 prochaines années. Comme le disait Jean-Pierre, l'échelle de prédictibilité, elle est de l'ordre de 50 à 100 ans pour la plupart des objets. C'est un petit peu comme en météorologie. On est précis à 5 jours. Pour les astéroïdes, on est précis à 20 à 50 ans. Pourquoi ? Parce que quand on a une position actuelle d'un astéroïde, bien sûr, c'est pas la position absolument réelle. Elle a des barres d'erreur. Alors, quand on fait un calcul de l'évolution de cet astéroïde dans le temps, on trouve donc une évolution. Et si on fait le même calcul, mais en faisant initialement, en prenant la même position, mais en faisant varier un tout petit peu cette position, eh bien, le deuxième calcul ressemble à peu près au premier pour les 20 à 50 prochaines années. Et au-delà, eh bien, les deux calculs donnent des résultats complètement différents. C'est donc le même principe qu'en météorologie. Et c'est pour ça qu'il faut suivre ces objets dans le temps. Mais pour développer des missions spatiales, on est à peu près tranquille pour prédire la trajectoire du satellite. Je voulais rajouter, pour donner un ordre de grandeur, par exemple pour Apophis. Apophis, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'en 2029, il va passer très près de la Terre, à moins de 32 000 km, ce qui est absolument merveilleux d'un certain point de vue, parce qu'on va pouvoir le voir à l'œil nu. Donc ça sera un événement médiatique, et ça sera très émouvant, intéressant, appelez-le comme vous le voulez. Le problème qu'on a, c'est qu'il y a une petite zone de 600 mètres, donc voyons, là on parle de 600 mètres par rapport à des dizaines de milliers de kilomètres, qui, s'il passe dans cette zone, eh bien en 2036, il rentre en collision avec la Terre. Donc on voit que la précision dont on a besoin lors de son passage en 2029 est de quelques centaines de mètres pour savoir s'il rentre en collision avec la Terre en 2036. Alors en l'occurrence, les dernières observations disent que la probabilité se réduit avec le temps. On a un autre objet qui nous préoccupe pour une échelle de temps un peu plus longue, mais pour Apophis, on commence à se tranquilliser en tout cas.
Et l'autre objet, c'est, pour terminer, parce que là, on approche...
découvert cette année.
2011 AG5.
Alors, voilà, s'appelle oui, on en a pas parlé. Alors, dites-nous deux mots dessus, sur ce... Peut-être alors, David... 2011... David... Oui, allez-y, alors, Patrick Michel et David Bancelin, peut-être. Oui.
Alors, 2011 AG5, il a été découvert donc il n'y a pas très longtemps. Et on a pu identifier qu'il passera à 2023 près de la Terre. Et on a là encore une incertitude sur une zone qui fait à peu près 300 km. Donc, c'est pas 600 mètres, c'est beaucoup plus grand. Et s'il rentre dans cette zone, il rentre en collision avec la Terre en 2040. Actuellement, la probabilité est quand même assez grande. C'est une chance sur 625. Ça paraît peu. En fait, c'est énorme. Actuellement, c'est plus que une probabilité de mourir dans un accident de voiture. Alors, on aura des observations l'année prochaine et dans deux ans. Et on espère évidemment que ces observations vont éliminer les trajectoires qui aboutissent, les solutions de trajectoires qui aboutissent à une collision. Mais sinon, je peux vous dire, et il y a eu un communiqué de presse de la NASA à l'issue d'un atelier de travail dans lequel je faisais partie qui a dit qu'on prenait très au sérieux ce risque avec cet objet, vu la probabilité actuellement calculée. Et si jamais les observations en 2013-2014 confirment cette possibilité, il n'est pas du tout inenvisageable qu'on fasse une mission pour au moins aller le voir ou peut-être le dévier.
Deux mots, David Bancelin, pour terminer, parce que là, on approche vraiment du terme de l'émission, sur cet objet-là que vous allez, j'imagine, suivre avec beaucoup d'attention.
J'ai déjà calculé tout ce qu'il fallait calculer, je confirme tous les chiffres que Patrick a avancés, et le seul problème, c'est que c'est 2040, et ça nous laisse peu de temps, parce qu'il vient d'être découvert, on a beaucoup d'incertitudes sur la trajectoire, donc ça laisse peu de temps pour envisager quelque chose au cas où si les prédictions étaient confirmées.
On est justement dans le cas où un nouvel astéroïde est découvert et où finalement on n'a pas encore toutes les données pour savoir
exactement,
ce qui va se passer.
Exactement, la physique on ne connaît rien, c'est-à-dire les propriétés physiques, rien du tout.
Merci beaucoup, le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci donc à David Bancelin, Jean-Pierre Luminet et Patrick Michel d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous trouverez des références d'ouvrages sur les astéroïdes, dont ceux de Jean-Pierre Luminet, en particulier « Astéroïdes, la Terre en danger », paru aux éditions Le Cherche Midi. Vous verrez également une vidéo de la découverte de Lutetia par la sonde Rosetta en 2010.
C'était « Un astéroïde peut-il provoquer la fin du monde ?» un numéro de Science Publique de Michel Alberganti, diffusé pour la première fois le 26 octobre 2012, réalisé par Dany Journeau.
C'était un aperçu du programme d'archives que nous vous invitons à écouter samedi prochain à partir de minuit. y seront réunis des récits de fin du monde, des plus anciens aux plus récents, des plus rationnels aux plus fantasques. Et d'ici là, cette nuit et toutes les nuits dès minuit sur France Culture, nous vous proposons une sélection d'archives. Des archives à télécharger et réécouter à volonté sur le site et sur l'application Radio France à la page des nuits. Les nuits, le jour, l'équipe des nuits vous souhaite une excellente fin de journée à l'écoute de France Culture.